Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue. Des conséquences du franc suisse réévalué brutalement sur l'économie du pays alpin, la Suède qui se fâche avec l'Arabie Saoudite, la Suède toujours, où des sportifs somaliens deviennent les rois du bandy, et tout ça, c'est dans Accent. Every day I think about the money. Let's go. What am I gonna do with all this money? I can't go a day without my money. No, you know that I'm married to the money. Let's go. Every day I think about the money. Let's go. Et direction donc la Suisse, hein, cet îlot de stabilité où le chômage n'existe pas ou quasiment pas. Une réalité en tout cas jusqu'en janvier dernier, au moment où la Banque Nationale Suisse décide de ne plus intervenir sur les marchés. Résultat, le franc suisse se met à flamber et gagne 20% du jour au lendemain. Pour l'économie du pays alpin, c'est un coup de massue qui va peser sur les exportations et le tourisme. Dans certains secteurs, on commence même à évoquer d'éventuels licenciements. Déjà chers, les vacances en Suisse sont devenues hors de prix pour les habitants de la zone euro. Reportage à Champéry, aux portes du soleil, dans une petite station de ski du Valais, à la frontière franco-suisse. Et c'est le reportage de Virginie Langeroc.
Dans la rue principale de Champéry, quelques visiteurs déambulent en quête d'une terrasse au soleil. Pas trop dur à trouver, ici, ce sont les bien nommées portes du soleil. Et malgré plusieurs semaines maussades, cette matinée est particulièrement lumineuse. Niché au pied des Dents du Midi, Champéry vit, hiver comme été, à 90% à 90% du tourisme. Des visiteurs suisses, pour moitié, qui viennent surtout à la journée, ou des amoureux de la montagne, qui arrivent des pays voisins, France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique ou Pays-Bas. Certains ont maintenu leur séjour qu'ils avaient déjà payé bien avant la hausse du franc, mais tout est désormais plus cher. Une chambre d'hôtel qui coûtait 100 euros en vaut désormais 120. Cette touriste britannique l'avoue, il aurait été bien plus raisonnable de rester dans la zone euro.
Pour nous, ça n'a rien changé, mais je connais beaucoup de gens pour qui ça a eu un impact. Quand nous avons dit que nous allions passer nos vacances en Suisse, la plupart de nos amis nous ont dit que ce serait beaucoup plus intelligent d'aller skier dans un pays de la zone euro. Ici, c'est beaucoup trop cher pour une majorité de gens. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons un chalet, donc forcément, nous venons ici. Mais je crois que le francfort n'est pas bon pour le tourisme en Suisse. On a des amis qui ont préféré aller skier en France. Ils ont loué un grand chalet avec tout le nécessaire et la différence était de plusieurs milliers d'euros.
Depuis la mi-janvier, les réservations de séjour en Suisse ont plongé et l'été s'annonce très mauvais. Pour les hôteliers, comme l'explique Christophe Béra, patron de l'Hôtel Suisse à Champéry, c'est un vrai coup dur.
On perd des réservations de la zone européenne et en plus les Suisses profitent du francfort pour aller dans la zone européenne.
Vous avez perdu combien ?
C'est difficile à dire, mais je dirais grosso modo 20%.
Vous avez dû baisser les prix pour maintenir aussi un petit peu...
Alors on a ajusté nos prix, oui, on a ajusté nos prix pour la fin de la saison. On n'a pas baissé complètement de 20%, je vous dirais, mais on a été à moitié. On espère que le franc va revenir du côté d'un 10. Là, il est à 1,5, 1,6 ces temps-ci. Donc, on a fait une baisse plus ou moins de 10% de tous nos prix. Alors, pour l'hiver, c'est encore possible parce qu'on travaille sur un produit qui a plus grande valeur ajoutée. Par contre, l'été, tout d'un coup, on a une concurrence qui explose, hein, avec des autres destinations, notamment, par exemple, les Pyrénées, la Toscane, qui font de la Corse, qui font aussi de la randonnée, qui font aussi qui ont les mêmes produits que nous, y compris aussi l'Europe de l'Est, et ça. Et finalement, là, ça va être beaucoup plus difficile.
Dans cet hôtel familial, les tarifs sont revenus au niveau de ce qu'ils étaient il y a 15 ans. Pas facile alors de garder des marges. Christophe Béra est en colère et dénonce la spéculation sur le franc.
On ne comprend pas pourquoi le franc suisse est si fort. Et c'est vraiment dû à la haute finance, à la spéculation, au marché financier qui charrie des sommes astronomiques d'un pays à un autre. Et finalement, il faudrait quand même qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là et puis des mesures drastiques qui soient prises. Moi, je serais même pour dire que la BNS devrait mettre un taux négatif de moins 1% sur le franc pour vraiment décourager les spéculateurs.
À Champéry, les remontées mécaniques, elles aussi, ont dû s'aligner sur l'euro. Les premières stations françaises sont à moins de 5 km et il est si facile d'aller acheter son forfait 20% de moins chez le voisin français. Alors les Suisses ont préféré baisser spontanément leur prix. Le forfait coûte désormais le même tarif dans toutes les stations des Portes du Soleil, de part et d'autre de la frontière.
Je suis contente qu'ils aient fait 52 francs la journée entière sur Suisse et France. Ça, c'est super, c'est favorable, hein, il faut le reconnaître. Mais ça ne m'aurait pas empêché quand même d'aller skier sur Champéry et sur la France. Il y a 2 week-ends de ça, on est venu avec les enfants, on a skié que sur la Suisse.
Tout est bon en fait pour éviter que les vacanciers n'aillent skier ailleurs. Les loueurs de matériel et les restaurateurs même ont baissé leurs prix, qui sont prêts à tout pour retenir les skieurs, notamment les Suisses, prêts à passer de l'autre côté de la frontière. Éric Liechti est responsable de l'Office du tourisme de Champéry.
C'est une clientèle proximité, mais ce n'est pas une clientèle qui est fidèle si les personnes n'en ont pas une résidence secondaire. C'est plutôt des clients qui vont passer d'une station à l'autre, qui vont profiter d'une offre, mais également aussi beaucoup question de prix.
Le ski est un tourisme très saisonnier qui exige des clients à fort pouvoir d'achat. Cette année, au Francfort et au manque de neige, s'est en plus ajoutée la faiblesse du rouble qui a fait disparaître les touristes russes, pas nombreux, mais très riches. Avec la crise, les Européens se font plus rares et la Suisse mise donc sur de nouveaux pays, la Turquie, les pays baltes et les pays nordiques. Suisse Tourisme, chargé de la promotion du tourisme en Suisse, redouble également d'efforts auprès de la clientèle asiatique.
Bonjour Virginie Langeroc. Alors nous venons d'écouter votre reportage. On comprend bien que la hausse du franc est lourde de conséquences et pas seulement pour le tourisme.
Oui, c'est l'ensemble de l'économie qui risque de subir les conséquences de ce renchérissement du franc, car on s'attend ici à une forte baisse des exportations. Les produits suisses coûtent aujourd'hui 20% plus cher. Or, les exportations pour la Suisse, c'est la moitié de son PIB. Les entreprises ont déjà réduit la voilure, elles ont instauré du chômage partiel, réduit les salaires ou encore augmenté le temps de travail. Et ce sera plus difficile à moyen terme. On parle 1 millier d'emplois supprimés et 1/3 des entreprises qui envisagent de licencier. Le secteur industriel est le premier touché, mais aussi l'horlogerie, la pharmacie et la chimie, autant de secteurs qui commercent principalement avec la zone euro.
Alors est-ce qu'on peut dire que la Suisse risque une récession ?
Oui, c'est possible, puisque l'essentiel de la croissance suisse, qui était de 2% en 2014, repose, on l'a dit, sur les exportations, notamment vers la zone euro. Alors si les exportations chutent, eh bien l'économie suisse sera bien chahutée forcément. Elle pourrait même rentrer en récession à la fin 2015.
Ce renchérissement du franc suisse a des répercussions bien au-delà des frontières suisses.
Oui, en France, par exemple, 1500 collectivités territoriales ont contracté des emprunts en francs suisses, qui sont désormais 20% plus chers. Alors cela devrait leur coûter 1 milliard d'euros supplémentaires. Déjà très mal en point, certaines collectivités vont se retrouver en quasi-faillite. Des hôpitaux publics aussi, très endettés déjà, qui ont souscrit des emprunts indexés sur le franc suisse, monnaie réputée stable et sûre a priori.
Alors ces emprunts concernent aussi les particuliers ?
Oui, ils sont nombreux, eux aussi. On estime qu'ils sont à peu près 5000 en France et beaucoup plus en Europe de l'Est. En Pologne, près de la moitié des emprunts immobiliers sont libellés en francs suisses. En Croatie et en Serbie, des dizaines de milliers de foyers ont souscrit des emprunts immobiliers en francs suisses, qu'ils ne peuvent évidemment plus payer vu la hausse du franc. Certaines banques, comme en Hongrie, ont accepté de convertir ces emprunts en euros, mais c'est loin d'être le cas partout. L'Autriche, elle, avait été bien inspirée. Elle avait interdit dès 2008, après la crise financière et la flambée du franc suisse de l'époque, les emprunts en devises étrangères.
Merci Virginie Langeroc et à bientôt dans Accent d'Europe.
Merci Catherine, à bientôt.
Et nous partons en Suède, on retrouve à Stockholm Sébastien Orion. Alors c'est assez inédit chez un gouvernement occidental, pour le signaler, la Suède rompt sa coopération militaire avec l'Arabie Saoudite. L'accord signé en 2005 devait être renouvelé en mai prochain, mais le gouvernement a décidé d'y mettre fin. Alors Sébastien, comment est intervenue cette décision ?
Bien, si l'on regarde à court terme et si l'on en croit les journaux suédois, cette annonce fait suite à un incident diplomatique survenu lundi au Caire. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, a dû annuler son discours devant le Conseil de la Ligue arabe sous la pression des diplomates saoudiens. Ce camouflet, ce revers, comme on a pu le lire, est en partie dû au fait que la ministre souhaitait parler de démocratie et aborder les droits de l'homme. Mais ce sont surtout ses propos plus anciens qui lui sont reprochés, comme quand elle avait dénoncé une punition moyenâgeuse infligée au blogueur saoudien Raef Badawi, condamné à 1000 coups de fouet. Certains médias arabes ont aussi évoqué un possible discours féministe auquel Riyad se serait opposé.
Donc la Suède aurait répondu immédiatement en mettant un terme à cette coopération militaire.
Eh bien, ce n'est pas si simple, car depuis plusieurs semaines déjà, la polémique enflait en Suède. Cette coopération a été dénoncée par les Verts, membres du gouvernement, et le parti de gauche qui soutient la coalition social-démocrate au Parlement. En interpellant la population sur cette coopération, ainsi que sur la vente d'armes à un régime qui applique la charia, ces deux partis ont marqué des points et ont indubitablement influencé le Premier ministre dans sa décision.
Mais la Suède ne prend-elle pas, Sébastien, de gros risques économiques et diplomatiques à travers cette décision ?
Oui, c'est ce que redoutaient plus de 30 hommes d'affaires suédois vendredi dernier dans une lettre ouverte. Ces capitaines d'industrie de grands groupes tels que H&M, Ericsson ou Ikea demandaient un maintien de l'accord avec l'Arabie Saoudite. Ils évoquaient un acte qui serait préjudiciable à la réputation de la Suède en tant que partenaire commercial. Cependant, les enjeux semblent trop importants. Économiquement, la Suède et l'Arabie Saoudite sont liés par des échanges commerciaux depuis longtemps, sans que cet incident ne puisse les remettre en question. C'est plutôt diplomatiquement que la Suède a perdu en crédibilité. Sur l'échiquier mondial, la reconnaissance de la Palestine en octobre dernier avait mis en bonne position Stockholm pour une place au Conseil de sécurité de l'ONU. En allant au Caire, Margot Wallström venait surtout chercher du soutien à cette candidature. Pas sûr qu'elle y soit parvenue, puisque l'Arabie Saoudite vient de rappeler son ambassadeur en Suède.
C'était Sébastien Orion à Stockholm. Et nous ne quittons pas les rives scandinaves puisque nous allons vous évoquer le sort heureux de sportifs africains qui deviennent des champions de sport sur glace. Et oui, hein, cela se passe à Borlänge où des réfugiés somaliens se sont hissés au niveau des meilleurs pratiquants de bandy en quelques mois. Le bandy, c'est l'ancêtre du hockey sur glace, très populaire en Scandinavie et en Russie. La Somalie a participé même pour la deuxième fois en février dernier au championnat du monde de bandy. Et Sébastien Duval s'est rendu pour l'occasion à Borlänge.
Il y a 2 ans seulement, la plupart des joueurs n'avaient encore jamais mis les pieds sur la glace. Mais allez voir s'entraîner ce soir dans les faubourgs de Borlänge, les Somaliens donneraient presque l'impression d'avoir toujours joué au bandy. Ancêtre du hockey sur glace, la discipline se dispute à 11 contre 11 sur des patinoires extérieures de la taille d'un terrain de football. Très populaire dans les pays scandinaves et en Russie, elle l'est en revanche un peu moins en Afrique. Les débuts de l'équipe somalienne ont été chaotiques, se souvient Sia Embretsen. C'est elle qui a appris aux joueurs à patiner.
Ils sont tombés, beaucoup, mais ils se sont relevés à chaque fois pour réessayer. Ils ont fait preuve de persévérance et c'est ce que vous avez envie de voir quand vous êtes entraîneur. Rien n'est impossible si vous vous en donnez les moyens et n'abandonnez jamais. Ils ont connu des moments difficiles, mais ils n'ont pas baissé les bras et quelques mois plus tard, ils étaient au championnat du monde. C'est une belle leçon de vie.
Située dans la région du Dalarna, au nord-ouest de Stockholm, Borlänge est entourée de conifères et de lacs gelés. Cette commune de 50 000 habitants vivait autrefois de l'industrie du bois, mais la plupart des usines ont fermé. Elle compte aujourd'hui près de 3 000 Somaliens, dont beaucoup vivent dans des petits immeubles en périphérie du centre-ville, le petit Mogadiscio. Jan Olof Lundberg est conseiller municipal en charge de l'intégration.
Comme dans beaucoup d'autres villes industrielles du pays, les ouvriers sont partis en laissant derrière eux des logements inoccupés où se sont installés les réfugiés arrivant en Suède. Borlänge a surtout accueilli des Kurdes et des Somaliens et d'autres les ont rejoints ici parce qu'ils connaissaient déjà quelqu'un sur place. L'équipe de bandy a changé la façon dont ils sont perçus. Quand ils sont rentrés des championnats du monde l'an dernier, 800 personnes de toute origine étaient là pour les accueillir, ça donne une image très positive de la ville.
L'image n'a pas toujours été aussi souriante. L'extrême droite représente près de 20% du conseil municipal et les réfugiés ont longtemps eu du mal à s'intégrer à la population. Un club de football communautaire a même vu le jour à Borlänge pour accueillir les Somaliens parfois rejetés par leurs coéquipiers suédois. C'est dans ce club que l'équipe de bandy a puisé l'essentiel de ses joueurs. Initié par une poignée de personnes impliquées dans le milieu associatif, ce projet a bouleversé le quotidien d'Ahmed.
Le bandy a changé beaucoup de choses dans ma vie. Quand je sors dans le centre-ville, les gens viennent naturellement vers moi et me demandent si je suis le gars qui est passé à la télévision ou dans les journaux. Je me sens fier d'habiter dans cette ville car les gens ont beaucoup de respect pour nous et tout ce que l'on fait. Je pense que ça pourrait même m'aider à trouver du travail. Ça nous a clairement rendu la vie plus facile.
svenskar, invandrare börjar prata med varandra. Det är det som är det stora problemet.
L'histoire de ces hockeyeurs somaliens a inspiré un documentaire à un duo de comédiens très populaires en Suède, Philippe et Fredrik. Sorti en janvier dernier dans les cinémas du pays, le film Trevlik Folk, des gens bien, s'inscrit dans la lignée de Rasta Rocket et son équipe jamaïcaine de bobsleigh. Tapis rouge, smoking, les Africains de Borlänge ont été traités comme des stars. Arrivé de Djibouti il y a une dizaine d'années, Hassan, le responsable du club de foot à l'origine du projet, ne s'attendait pas à de telles retombées.
J'ai réalisé mon rêve. Je dis, chaque fois quand j'étais gamin, une fois tu vas devenir populaire. Et maintenant je suis devenu quelqu'un qui est populaire, tout le monde me connaît. Je marchais sur la tapis rouge. On était comme les joueurs footballeurs. On était, tout le monde dit que voilà les stars qui rentrent, voilà les stars qu'on était aussi. On était invité le meilleur hôtel. Il y a beaucoup de gens qui criaient devant notre nom, Somalie, Somalie, Somalie. C'était quelque chose d'incroyable, incroyable.
Un musicien de Borlänge a également composé une chanson à la gloire des Rasta Rocket locaux. Le morceau a été joué avant chaque match le mois dernier en Sibérie, où la Somalie a disputé ses deuxièmes championnats du monde. La première sélection africaine a participé au tournoi et a montré de gros progrès par rapport à l'an dernier. Ahmed.
Nous n'avons pas gagné un seul match, mais beaucoup de gens ont été surpris par notre niveau et nos tactiques. Tout le monde était fier de nous. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux en réalisant tout ce que nous avons réussi à accomplir alors que nous n'avions encore jamais patiné il y a un an et demi. Et que nous étions là, sur la glace, sans avoir aucune crainte. On a l'ambition, dans quelques années, de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes.
La Somalie espère désormais devenir la première équipe africaine à remporter un match international de bandy. Ce sera peut-être devant son public suédois. Borlänge s'est portée candidate à l'organisation des championnats du monde 2017.
Et c'était le reportage de Sébastien Duval à Borlänge.
Sortir.
Connaissez-vous les hate-free zones à Prague? Ces quartiers permettent à tous, peu importe l'origine ou l'orientation sexuelle, de se sentir en sécurité. Bars, cafés, restaurants peuvent adhérer à ce nouveau projet soutenu par l'Agence pour l'intégration sociale. Alexis Rosenzweig.
Une trentaine d'établissements participent déjà à l'opération et figurent sur la carte interactive créée pour marquer ces endroits autoproclamés sans haine. À l'origine de ce projet, le photographe engagé Lukasz Hołdek indique que les 15-25 ans sont le cœur de cible et qu'avec déjà plus de 12 000 fans sur les réseaux sociaux, il y a de quoi espérer que le phénomène prenne encore davantage d'ampleur. Il estime que plusieurs centaines de divers lieux de socialisation se procureront l'autocollant qui rappelle que toute personne est bienvenue, quelle que soit sa couleur de peau ou son orientation sexuelle. Un rappel qui peut étonner ou même choquer certains, mais finalement peut-être pas si inutile dans des communes où les tziganes sont régulièrement refoulés à l'entrée de bars ou restaurants. Lancé le mois dernier, ce projet a été initié dans le cadre d'une campagne gouvernementale par le biais de l'Agence pour l'inclusion sociale, une campagne financée en partie par des fonds norvégiens et qui a fait suite aux manifestations anti-roms dans plusieurs localités tchèques. Un millier de ces autocollants ont pour l'instant été imprimés. Pas sûr qu'ils soient tous utilisés, mais les organisateurs se montrent confiants. Le dernier établissement en date inscrit sur la carte est un salon de tatouage du centre de Prague.
Accent d'Europe, c'est fini. Jusqu'à demain, la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous tout de suite sur Facebook et sur RFI.fr. Ne zappez pas dans un instant les infos.